Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire.
Energoamag numéro 17, la société coopérative donc d'intérêt collectif Enercoa a pris pour habitude de vous proposer des émissions qui concernent à la fois son travail, son intervention sur le territoire et également ses préoccupations, ses réflexions. Guy Pezet, donc membre du conseil coopératif pour l'animation, et comme pour le Norcoamag numéro 16, Jean Lafont, présent dans, dans les studios de CFM.
Bonjour à tous.
Bonjour. Donc, on avait pas mal développé, mais il faut encore y revenir sur les scénarios d'énergie renouvelable. Mais ce que je souhaite aussi, c'est qu'on fasse un petit point sur la vie de la coopérative, toujours, et en particulier un grand moment qui s'est tenu le 11 avril, donc le mois dernier, hein, qui est l'AG, l'Assemblée Générale, qui donc revenait sur tout ce qui s'était passé pour l'année 2021, et évidemment aussi pouvait un peu envisager le futur. Bon, tu étais l'animateur, de cette réunion, de cette grande assemblée générale qui s'est tenue à Monteil. Moi, j'ai eu une impression très positive de cette assemblée générale, avec en particulier la fréquentation, donc tu peux nous
parler. Sais que j'ai eu quelques félicitations pour la qualité de mon animation à l'issue, mais elles étaient discrètes. Bon. Puis c'était au moment où il y avait un petit verre de vin blanc tout à fait à la fin, donc peut-être que les gens se sont laissés aller.
Voilà. Mais en tout cas, il y avait du monde.
Hein, oui, c'était plein.
C'était plein, il y avait quand même près de 80 personnes.
Voilà.
Et il y avait quand même des votes par correspondance. Il y avait des procurations aussi.
Voilà, il y avait des mandats, donc c'était 80 plus les gens qui étaient représentés par les oui. mandataires.
Et donc, pour le 2021, il y avait à l'époque 256 sociétaires, la fin 2021. On est passé maintenant à 280 sociétaires, donc ça continue à évoluer positivement, même si on est toujours dans l'objectif des 500, qu'on a rappelé à l'Assemblée.
Allez, dans 6 mois, on sera 500.
Voilà, et que je rappelle aussi dans ces émissions, puisqu'on a besoin de forces vives, on a besoin... Il y a du travail, hein. C'est ce qu'on peut dire quand même, il y a du travail, et c'est a été largement évoqué dans l'Assemblée. Et également, il y a des compétences qu'on recherche, puisqu'il faut pouvoir toujours aller de l'avant dans ce beau projet, puisque c'est un projet finalement qui a avancé assez vite. C'est ce qu'on appelle une belle aventure. Voilà. Donc, je reviens maintenant pour revenir peut-être à nos moutons, si je puis dire, mais en tout cas plutôt aux énergies renouvelables, à leur place dans les scénarios RTE, par exemple, ou dans d'autres scénarios, on verra. Tu es, au fond, le poste source pour ces informations-là. Voilà.
Oui. Alors, ce qu'on peut rappeler, ce que nous disions... il y a 2 semaines, à savoir que RTE a proposé en octobre, proposé aux politiques qui auront à trancher, 6 scénarios, avec 2 extrêmes. Le premier qui suppose la sortie totale du nucléaire à échéance 2050, donc avec une extinction progressive de toutes les centrales actuellement, 50aine de centrales actuellement en service, ou celles qui seront en service rapidement, sous 1 an ou 2, comme le PR de Flamanville. Et à l'autre bout, un maintien important et un développement important de nouvelles centrales nucléaires de type EPR pour aller jusqu'à maintenir la part d'électricité nucléaire en 2050 au voisinage de 50%. Donc, scénario numéro 1, 0% d'électricité nucléaire en 2050. Scénario, le sixième, le plus important en termes de nucléaire, 50% de nucléaire.
Bon. Il faut... La part des renouvelables, quand même, là-dedans, et de quelle énergie renouvelable, je crois qu'il faut y arriver, parce que le scénario qui était retenu, du moins... avant les élections présidentielles, c'était plutôt des scénarios donc favorables à une bonne part d'énergie nucléaire. Donc
oui. Alors les 4 scénarios intermédiaires, sans les détailler, en fait, c'est une gradation de la part du nucléaire relativement aux énergies renouvelables. Et plus on va vers le sixième scénario, plus on maintient de nucléaire. Peut-être qu'il faut rappeler ce que sont les énergies renouvelables.
Oui.
Vous en connaissez quelques-unes. À Enercoa, nous installons actuellement des centrales sur des toitures. Alors, soit ce sont des centrales de moyenne puissance, 36 kW crête ou 100 kW crête, que nous injectons entièrement sur le réseau. Mais aussi, à ce jour, il y a 8 sociétaires qui ont commandé et installé des petites centrales domestiques qui mettent sur la toiture de la maison. Et une centrale domestique, ça revient en fait, et ça a un intérêt lorsqu'on envisage d'autoconsommer l'électricité que l'on produit sur son toit. Comme le four ou l'aspirateur ne fonctionne pas toute la journée, en fait, il y a des moments où il y a des surplus. Et ce dispositif permet de vendre le surplus et donc de l'injecter sur le réseau. Donc, dans ce cas-là, c'est vos voisins qui en bénéficient. Et dans votre cas, vous rémunérez, vous percevez une rémunération pour la vente d'électricité. Et accessoirement, on peut préciser que si vous faites l'acquisition d'une de ces centrales, selon votre situation, il y a une subvention de 1 000 ou 1 500 euros qui permet d'amoindrir le coût de ces installations. Alors, le photovoltaïque, certes, mais ce n'est pas le seul. En Aveyron, par exemple, dans l'Aude, il y a de l'éolien. Et des énergies renouvelables, il y en a d'autres. Par exemple, je vois dans les libellés RTE, à partir dans les années qui vont suivre et à échéance de 2050, RTE indique que les gaz non carbonés, en gros, c'est du gaz qui sera toujours produit et injecté dans le réseau, mais qui ne sera pas d'origine fossile. Donc, il ne sera pas extrait des grandes profondeurs. C'est un gaz qui peut être produit, par exemple, par les processus de méthanisation qui pour l'instant, sont relativement peu développés, mais pour lesquels il y a de très nombreux projets sur de très nombreux territoires.
On l'Aveyron aussi. Hein. Il y en a celui du retour de Montbazem, il y a celui de Crespin aussi. Bon.
Voilà, oui. On parle de méthanisation, donc avec des déchets verts. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un arbre qui pourrit dans la forêt, en fait, il dégage du méthane, mais ça met 50 ans. Si vous le broyez, que vous le mettez dans un méthaniseur, vous produisez le méthane. Plutôt que de le produire et de le rejeter dans l'atmosphère pendant 50 ans, vous le produisez en 2 ou 3 jours et vous le mettez sur le réseau. Et dans tous les cas, il se retrouve dans l'atmosphère, mais le bilan est neutre. Et c'est vrai. Et alors, en fait, pour définir les énergies renouvelables d'une manière générale, ce sont toutes celles dont le bilan est neutre en termes de carbone rejeté dans l'atmosphère à court terme. Si vous mettez du bois dans votre chaudière ou des granulés dans votre poêle à granulés, vous chauffez de cette manière-là, le bois il a maxi 20 ou 30 ans. Et donc, à comparer avec le charbon ou le pétrole qui est enfoui depuis 300 millions d'années. Voilà, il y a une différence d'échelle qui est vraiment très importante.
Et donc, oui, tiens, c'est rassurant quand même, les gaz dits de schiste ne sont pas évidemment des gaz qui sont intégrés dans ces scénarios-là, parce qu'ils ont au contraire un coût énorme.
Oui, et ils ont un très faible rendement, parce que les moyens à mettre en œuvre pour aller les chercher sont lourds. Ça, on peut l'indiquer. Le pétrole saoudien qu'on a ramassé presque, à l'appel, au début du XXe siècle, il fallait très peu d'efforts. En gros, le ratio, c'était un baril de pétrole pour produire... il fallait consommer un baril de pétrole pour produire et exporter 100 barils dans le monde entier. Oui. Quand on est sur les gaz de schiste, il y a des cas dans lesquels c'est un baril de pétrole pour produire 3 ou 4 barils.
Même moins, parfois, ils disent.
Et même parfois, alors, après, économiquement, ça ne tient pas et ça s'effondre. Oui. Il y a eu de très nombreuses faillites au Canada, aux États-Unis. Lorsque les cours des produits des hydrocarbures baissent, les boîtes...
L'exploitation n'est plus rentable.
Voilà, les boîtes arrêtent l'exploitation. Voilà. Alors, ces gaz de schiste, outre les dommages qu'ils produisent et essentiellement par le fait du rejet de CO2 dans l'atmosphère, mais aussi parce que c'est une destruction du paysage qui est quand même importante, ils n'ont pas vocation à se développer. En tous les cas, en France, et même en France, ils sont hors la loi, voilà. Pour le moment.
Petite pause musicale avec San Severino, le swing du président. Bon, on a un nouveau président, donc il faut essayer maintenant de voir comment un artiste comme San Severino s'adressait au président dans les années 2000-2010.
Président, je sais que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait. On peut se parler. Il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement. Un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale, genre comme les tiennes. Enfin, les nôtres, quoi. Si on stoppait le nucléaire. Si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours. Scientifique ni pointu jamais, car même toi tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire? Ce que tu devrais faire aussi au Congrès des Nations Unies. C'est dire modestement, les gars, y'a plus aucune centrale chez moi. Et hop, tout balayé. Au début, je croyais vraiment contenter quelques mécontents. À force d'écouter tout le monde aussi. Mais j'ai trouvé ça fantastique. And I say no bombes atomiques. Babacouz en Birkenstock, jeunes allemandes non épilées, contre catholiques, pratiquants vendéens et jeunes curés, marchands d'uranium, socialistes, humanistes convaincus, ex-femmes de Zizi Top, anciens barbus. Ils hurlent tous, et l'armement, que va-t-on faire de nos savants? Ah bah oui, ça c'est un problème. Tu leur réponds, vous êtes tarés, et vos centrales vont exploser, cancer de la thyroïde. Et puis tu fais semblant de sortir et tu les laisses réagir. Regarde, regarde, regarde. Tu seras étonné de les voir te courir après dans le couloir. Par deux, trois teignes dangereux et cinq ou six mecs ennuyeux. Beaucoup qui pensent déjà comme toi se réveilleront et te diront: l'électricité va manquer, là c'est à toi de répliquer. Alors là tu sors ton joker, tu vas dire vraiment tout ce que t'as. Les éoliennes justement, ça fait du courant gratuitement. Pas de soucis, pas de calcaire, abandonnons le nucléaire, fermons les centrales pour de bon, pour nos enfants, c'était pas bon, et perdons une fois pour toutes la course à l'armement, et toute la terre nous criera victoire, on entrera dans l'histoire, à nous la gloire. Peace and love, mon président.
Voilà, de retour dans les studios, après cette petite pause musicale. Je pensais justement, en t'entendant, qu'on n'avait pas évoqué complètement toutes les sources d'énergie qui concernent aussi notre territoire, ou du moins notre région et du moins notre département, en particulier l'hydraulique, puisque celle-là, c'est évident que oui. C'est une source d'énergie renouvelable. Mais il faut en dire un mot, je crois, c'est important. Il y a même des gens intéressés toujours par cette question.
Oui, l'hydraulique a été massivement développée après-guerre, avec la construction de très nombreux barrages en montagne, il y en a une bonne centaine en France. Alors non seulement en montagne sur des barrages, avec des systèmes parfois complexes, je pense dans les Pyrénées au barrage de Cap-de-Long, qui capte de l'eau de plusieurs, avec tout un système d'alimentation du barrage de Cap-de-Long, avec un tunnel de 10 km à travers le massif, pour aller turbiner l'eau à Pranières, c'est quasiment Lucin-Sauveur, Pranières. Donc c'était des systèmes très complexes, et Depuis les années 80, la production d'énergie de type hydraulique est constante en France. Là, j'ai des chiffres sous les yeux, temps réel. Alors, ce sont des chiffres RTE, puisque nous parlions de RTE tout à l'heure, à 10h55. Aujourd'hui, nous en sommes, pour l'énergie hydraulique, à 13%. 13% de la production en France, de l'énergie, c'est de l'hydraulique.
Et c'est un chiffre constant.
C'est un chiffre constant, c'est quasiment jour et nuit, toute l'année, un peu moins l'été, lorsqu'il y a étiage des fleuves, parce que c'est non seulement les barrages, mais c'est aussi les centrales au fil de l'eau. Par exemple, sur le Lot, à Cajar, ici. Et même si la production est un peu moindre pendant l'été, en fait, la consommation est aussi réduite. Donc, c'est peu gênant. Et ces infrastructures qui ont été installées massivement jusque dans les années 80 sont désormais un peu dormantes parce que désormais il y a encore quelques sites dans les massifs montagneux qui pourraient être équipés avec des barrages. Mais bon, l'inconvénient, c'est qu'un barrage, il noie une vallée entière.
Ah oui.
Et actuellement, il n'est pas dans l'air du temps de noyer des vallées. Donc,
on n'est pas en Chine.
RTE, alors en Chine, ça s'est fait récemment, mais c'est pas sûr que ça se fasse encore
longtemps.
Les vallées
des Trois Gorges, c'est quelque chose. C'est des villes entières qui ont été englouties.
Oui, avec des déplacements de population
très importants. Avec des beaux films de Xia Shanke sur le sujet.
Ceci dit, à Tignes, dans les années 60, on a aussi déplacé la population. Mmh. Alors, ça n'était certes que 150 personnes, mais on a noyé le village et on les a installés à quelques kilomètres de là.
Voilà. Bon.
Et alors,
les petits projets peut-être aussi qu'il pourrait y avoir, les petits projets
oui,
qu'il peut y avoir parfois sur les rivières, même ici dans notre région.
Voilà, alors il y a quelques micro-centrales au fil de l'Aveyron, par exemple à proximité de Villefranche ou sur le Vior, qui sont des centrales qui produisent entre 10 et 20 kilowatts. Ce sont donc des petites puissances qui finalement sont inférieures à n'importe laquelle des toitures Enerqoa, qui est en photovoltaïque. Et cette énergie hydraulique, dans l'Aveyron, elle a une part plus importante, en particulier sur la Truyère à Montézic. Et sur les barrages sur la Dordogne dans le Cantal. Montézic, c'est un cas un peu particulier parce que c'est une steppe, c'est une station de transfert d'énergie par pompage. Il y a 400 mètres de dénivelé entre le bas, la Truyère, et le haut, Montézic. Et c'est lorsqu'il y a des excédents d'énergie, d'électricité, en fait, on consomme cette électricité pour pomper de l'eau en amont. Et lorsque on a besoin, lorsqu'il y a des pics de consommation, par exemple le matin à 8h du mat et le soir à 20h, j'ai regardé hier soir, le pic de consommation, il était vers 20h hier soir. Et c'est à ce moment-là que l'eau part dans l'autre sens, et cette fois-là, elle n'est plus pompée, elle est turbinée, et l'électricité qui est produite est injectée sur le réseau au moment des pics de consommation.
Oui, comme on peut voir justement la part de l'hydroélectricité importante dans la production d'électricité constamment en France, quelle part des renouvelables alors de nos jours, puisqu'il y avait des objectifs fixés pour la part des énergies renouvelables à partir de la COP21 par exemple, et chaque fois on nous dit que la France est encore en retard par rapport à ces objectifs-là, donc on est en 2022, et quelle est la part à peu près? Parce que c'est toujours un peu, les chiffres varient.
Alors, actuellement, je change de diapositive, Guy.
À la radio, une diapositive.
alors, c'est une diapositive parce que j'utilise comme source un travail que j'ai fait précédemment.
D'accord.
Et en gros, là, sur les courbes que j'ai sous les yeux, le renouvelable, c'est de l'ordre de 15% en France.
C'est peu. C'est peu par rapport à nos partenaires européens.
Mais il y a 15 ans, c'était quasi zéro.
Ah oui,
donc, sauf exception. Et puisque j'ai
le tout nucléaire.
Moi, j'ai connu les premières centrales photovoltaïques qu'on installait, par exemple, sur des refuges pyrénéens. C'était des trucs qui coûtaient extraordinairement cher, qui produisaient très peu et qui, sur leur durée de vie, ne produisait pas l'énergie qui avait été consommée pour fabriquer l'installation. Actuellement, à Enercoa, quand on installe une centrale, n'importe laquelle, hein, elle produit l'énergie qui a été consommée pour la fabriquer et l'installer en moins d'un an. Et dans l'éolien, c'est encore moins, c'est entre 6 et 9 mois. Le cycle est vertueux, parce que si vous avez, si Enercoa produit de l'énergie, dans un an, avec l'énergie qui est produite, on peut fabriquer de nouveaux panneaux photovoltaïques, voilà, oui, pour le mettre sur d'autres toitures.
Oui, oui, c'est devenu moins cher, ça va, c'est devenu plus performant, c'est devenu plus efficace.
Le scénario RTE, à échéance de 2050, on a vu qu'il y avait 6 scénarios, les énergies renouvelables seraient entre 20 et 50% pour la production électrique, et pour les gaz non carbonés, c'est encore de l'ordre de 40%, puisqu'il y a une hypothèse, donc, on l'évoquait tout à l'heure, de gaz qui soit maintenu sur le réseau, mais à partir de ressources biosourcées.
Donc c'est quand même un enjeu important, et c'est dans des scénarios qui laissent encore une place importante au nucléaire. Donc ce développement, cette montée en puissance des énergies renouvelables, qui nous préoccupe.
Et le débat de savoir, parce que certes, s'il y a des annonces qui ont été faites il y a quelques semaines, juste avant une élection présidentielle, sur des nouveaux projets nucléaires, en fait, actuellement, rien n'est budgété nulle part.
Oui.
La part qui sera maintenue du nucléaire, son éventuel développement ou son abandon, ça va être dans le champ politique, que ça va continuer d'être débattu, et de mon point de vue, pendant des années. Parce qu'on peut toujours dire qu'on va en construire 6 aujourd'hui, et puis finalement n'en construire que 4, ou peut-être plus, ou peut-être 0.
Puis s'il faut 10 ans pour les construire, d'ici 2035, il faut quand même avoir bougé et changé de politique par rapport aux énergies renouvelables.
Oui. Et l'intervalle va encourager à développer les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, c'est quelques mois.
Voilà. Nous remercions Jean Lafond, donc, et nous reprendrons peut-être ce débat une autre fois encore. Hein, mais...
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Merci à tous.
Au revoir.
CFM. CFM Villefranche.